Aujourd'hui, de nombreux chercheurs et chercheuses explorent de nouveaux formats pour diffuser leurs travaux dans les cercles académiques ou auprès du grand public. Depuis quelques années, au même titre que les romans, les bandes dessinées ou les films, les podcasts font partie de ces formats émergents. C'est pourquoi l'ENS de Lyon a lancé en janvier 2025 un programme d'accompagnement nommé ESOR, pour écriture sonore de la recherche. L'équipe de la web radio Cadécole de l'Institut français de l'éducation a donc proposé aux enseignants-chercheurs et doctorants intéressés de l'ENS de Lyon et des autres établissements du pôle universitaire lyonnais de pouvoir être accompagnés pendant un an dans la perspective de renouveler leurs pratiques de diffusion de leurs travaux scientifiques en créant leur propre production sonore. Cet accompagnement annuel s'appuie également sur l'expertise de Séverine Leroy, maîtresse de conférence à l'UCO, pratiquant le documentaire sonore comme outil d'écriture de recherche et de création. La journée d'études ESOR, qui a eu lieu le 24 janvier 2025 à l'ENS de Lyon, est le premier temps fort du programme d'accompagnement à l'écriture sonore de la recherche. Elle s'apparente à une journée de lancement, qui s'appuie sur des retours d'expérience de chercheuses et chercheurs pour témoigner de leur cheminement scientifique et de la nécessité, pour eux, d'explorer ces nouveaux formats et nouvelles écritures. Vous retrouverez dans ce podcast un retour d'expérience sur le projet PRASOR, Pratique sonore de la recherche, conduit à l'Université catholique de l'Ouest. Il s'agit d'un échange entre Séverine Leroy, maîtresse de conférence et responsable du projet PRASOR, et Anne-Zoé Rillon-Marne, chercheuse qui a participé au projet et qui s'est lancée pour la première fois dans l'écriture sonore dans le cadre du projet.
Anne-Zoé et moi, représentantes ici du projet PRASOR, on tient à dire que du point de vue disciplinaire, on vient absolument des sciences humaines et que les chercheurs et les chercheuses qui sont intégrés dans le projet PRASOR, donc qui se situent en France une bonne partie à l'UCO, hein, des collègues assez proches, mais aussi deux collègues au Canada et une collègue au Portugal, ce sont des chercheurs qui s'inscrivent en histoire contemporaine notamment, et en musicologie pour Anne-Zoé, et en études des arts de la scène, en arts du spectacle, danse et théâtre. Donc en fait, nos pratiques épistémologiques, disciplinaires, ne sont pas les mêmes que celles qu'on peut pratiquer en sociologie, bien que ce projet, finalement, nous rapproche aussi des dynamiques peut-être de l'anthropologie, parce qu'on va sur le terrain, mais sans avoir été formé à ces méthodes, ça c'est certain. Alors, le retour du projet PRASOR, une expression m'est venue hier, une image en tout cas, je me suis dit, tiens, PRASOR c'est quoi? C'est la nécessité de fabriquer notre gâteau nous-mêmes. Donc nous fabriquons nos gâteaux. C'est aussi le point de départ, c'est se dire qu'il y a un moment, ce désir d'aller plus loin que la constitution des données de la recherche, et notamment des archives sonores de la recherche, énormément pratiquées évidemment par la sociologie, par l'histoire orale, l'anthropologie. Voilà, ce sont des disciplines rompues à cet exercice. Moins pour les nôtres, à part pour ce qui concerne les historiens, histoire contemporaine. Mais c'est en fait, moi, je me suis dit, étant chercheuse en études théâtrales et documentant les processus de création, donc générant de la documentation audiovisuelle et sonore, bon, c'est bien, mais je voudrais aller plus loin avec ces données. Et vous en avez parlé en introduction ce matin, c'est de dire... Ces données ne sont pas juste des traces, ne sont pas juste des choses qui vont dormir dans une bibliothèque numérique. On doit les imaginer autrement pour faire récit avec. Et à partir du moment où on fait récit avec ces traces qui sont issues de nos terrains, de nos pratiques, forcément, on va les aborder différemment dans la phase de production. Parce que la phase de production va nous inviter à nous projeter dans la phase de production des enregistrements, qui va aller jusqu'à la phase de la réalisation et de la diffusion, qui est peut-être le point faible, je crois, de nos pratiques, en fait, au final. Donc PRASOR, ça a été pensé pour offrir cet espace d'expérimentation, vraiment, j'insiste sur le terme, de notre écriture sonore de la recherche. Et cet espace d'expérimentation, il en passe par la nécessité d'un apprentissage technique depuis la prise de son jusqu'au montage. Et c'est beaucoup de ça qu'il sera question aussi au cours de cette intervention. Moi, j'étais seule embarquée avec ces questions. En 2021, j'ai eu envie d'emmener des collègues dans cette aventure-là et des collègues qui n'avaient pas encore expérimenté une écriture sonore de la recherche. Donc, on n'a que des débutants, des grands débutants, sauf peut-être la collègue de l'Université de Concordia qui avait déjà participé, dans le cadre de la chaire de dramaturgie sonore de Jean-Paul Keinec, à un projet de création sonore en lien avec un terrain. Et donc, elle avait déjà été assez sensibilisée à ces questions-là. Donc voilà, on n'était que deux, finalement, à nous être déjà emparés de la question. En revanche, ces chercheurs, s'ils n'avaient jamais pratiqué d'écriture sonore de leur recherche, pour la plupart, forcément, avaient manipulé le micro dans le cadre de leurs enquêtes de terrain, ce dont on vient de parler. Mais le micro, vous allez vite comprendre, souvent, le chercheur pose l'enregistreur sur la table, appuie sur REC et ça tourne. Et ça tourne, mais sauf que ça tourne dans les conditions qui sont celles-ci. Dans des endroits qui ne sont pas forcément propices à l'enregistrement et dans une posture qui n'est pas celle de l'acte d'enregistrer qui nous met dans un état particulier de relation. Et c'est ce qui a été finalement découvert comme acculturation technique dans le projet Prazor. Pour nous, c'est passé ce projet par des formations. Et la première formation, ce sera la slide 3. Vous ne verrez pas la 2. C'est la slide 3. C'est une semaine à l'issue de la première année qui a été construite par un séminaire où on réfléchissait et on se nourrissait des chercheurs qui avaient questionné l'importance du sonore. Évidemment, Murray Schafer sur les paysages sonores, c'est un passage obligatoire, mais pas que. Nous avons aussi reçu des experts de l'INA, parce qu'on s'est beaucoup posé la question et on a rencontré l'INA en se disant, notamment les historiens, mais nous, on voudrait utiliser des archives sonores avec lesquelles on travaille et qui sont déposées et garanties par le dépôt légal à l'INA. Et là, on mettait le doigt sur quelque chose de terrible. C'est le coût que ça génère d'aller chercher ces archives-là, qui sont aussi nos matériaux de recherche. J'ai aussi compris, pour vous avoir parlé tout à l'heure de France Culture, de la grosse différence qui allait s'imposer dans le cadre de production. Quand vous produisez un documentaire à France Culture, vous allez chercher vos sons, évidemment sur le terrain, mais aussi beaucoup dans les archives de l'INA. Et à chaque fois que vous convoquez une archive, il y a des droits qui sont payés, donc tout est fait derrière. Vous n'avez pas à vous soucier de ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous apprenez à écrire avec cette matérialité sonore du dialogue entre le terrain et les archives. Sauf que là, on n'est pas dans le même cadre. Et donc, Prazor relève ce défi de... Il va falloir que tu ailles chercher tes propres sons parce que ça va être très difficile d'aller en voler d'autres, pourtant avec lesquels tu es en, je dirais, intertextualité. Le terme n'est pas bon parce que c'est littéraire, alors on va s'amuser à dire intersonorité. Voilà. Voilà, donc cette première résidence de formation à l'issue du séminaire qui posait toutes ces questions, elle a duré une semaine, elle était au mois de juin. Et on a réuni le groupe, une partie du groupe, il y avait juste les deux Canadiens qui n'avaient pas pu venir, pour prendre en main les outils de prise de son. Qu'est-ce que ça veut dire, ces outils de prise de son ? On avait fait l'achat du matériel, donc on avait deux types d'unités de tournage. Et celle qui a été la plus utilisée au sein de Prazor, ça a été l'unité légère, hein, composée du zoom H5. Qui a l'avantage d'avoir deux petits micros XY et une petite capsule MS quand on veut prendre plus large. En fait, la plupart du temps, on utilise le XY, avec la nécessaire poignée de suspension pour éviter les bruits de manipulation sur le zoom, un classique des grands débutants aussi. Et ça n'empêche de toute façon pas les gaffes, puisqu'on règle le son directement sur l'enregistreur. Vous voyez très bien de quoi je veux parler. La bonnette, si vous vous retrouvez à enregistrer en extérieur pour éviter que votre son soit corrompu par les effets de vent et de déplacement, parce que le micro nu va forcément faire entrer ces choses-là, et le casque. Et le casque, qui change tout, parce que d'un seul coup, forcément, vous entrez dans un autre monde, vous tombez dans la marmite. L'écoute amplifiée, je suis sûre que toutes et tous ici qui pratiquons notre recherche par le sonore, c'est le bonheur absolu d'être entré dans ce monde amplifié du son, de ce rapport médié au monde, mais finalement intense, extrêmement intense, dans la présence et dans l'écoute. Et pour moi, enfin, tout vient de là, en fait, cette qualité d'écoute qu'on a développée. Bon, ça, c'est la formule légère. Alors, la formule légère que vous voyez sur le diaporama. Et je vous montre ces photos, vous les regardez là, puis on les commentera un petit peu après. Je vais continuer à avancer dans mon histoire. L'autre formule, l'autre équipement pour une unité de tournage un petit peu plus complexe, c'est celle à laquelle je me suis confrontée parce que j'avais déjà expérimenté le zoom et que j'avais envie d'aller vers une unité de tournage plus complexe, composée presque d'une configuration professionnelle, donc d'un zoom F6, donc ça veut dire indépendant, pas équipé de micro, donc nécessairement des micros reliés par la perche, la poignée de suspension, les câbles, les câbles qui frottent sur la perche, et surtout différents types de micros. Des micros mono, d'abord, alors qu'on avait enregistré en stéréo jusqu'à présent avec nos zooms, donc comprendre qu'on est en train d'enregistrer en mono, c'est pas évident, comprendre qu'entre un micro cardio et un micro hypercardio, les directivités sont pas les mêmes, que pour avoir des ambiances, éventuellement, c'est pas forcément ceux-là qu'il faudrait prendre, mais se dire, tiens, il va falloir s'équiper aussi de micros stéréo, enfin, tout cet apprentissage quand on décide de sortir du confort du zoom. Donc ça, moi, je me suis frottée à cet environnement technique-là et j'ai dû compléter en fait ma formation à l'INA en octobre dernier, une formation professionnelle de maîtrise du son pour le documentaire et le reportage, parce que Prazor n'était pas l'endroit pour moi de cette formation. Donc vous voyez, on n'est pas tous au même endroit, mais en fait, on a profité du laboratoire pour progresser techniquement ou en tout cas s'acculturer, quoi. Alors, cette résidence de formation, ce qu'il a fallu qu'on comprenne, nous, étant engagés dans le récit sonore de nos recherches, en tout cas l'expérimentation, c'était par quoi je dois passer, par quelle compréhension je dois passer techniquement. Donc, je viens de le dire, hein, la question de faire la différence entre l'enregistrement mono et l'enregistrement stéréo, comprendre la directivité des micros, savoir choisir son micro en fonction de la situation, et du rendu sonore, donc dramaturgique au final, que l'on cherche à obtenir, savoir placer son micro en fonction de la distance, de l'axe, pour ne pas détimbrer les voix, enfin, toute cette chose qu'il a fallu apprendre et expérimenter. Le pire, comprendre comment régler le gain. Vous allez l'entendre, c'est jamais gagné. Savoir qu'on ne règle pas le niveau d'enregistrement pareil en fonction des voix ou des ambiances, que ce qu'on a dans le casque, ce n'est pas forcément ce qui rentre dans l'appareil parce qu'il y a le volume d'écoute, il y a le volume d'enregistrement. Tout ça, on n'en avait juste pas conscience quand on posait notre enregistreur sur la table. Et ça, c'est un bain dans lequel on doit plonger dès lors qu'on se saisit de ces outils. Donc en fait, on s'improvise technicien. Parce qu'on n'a pas le choix, on est obligé d'y passer dans ce truc-là. Ces indications donc, qui sont d'abord techniques avant d'être dramaturgiques, sauf sur la question du choix des micros, hein, je l'ai dit, elles nous ont été données notamment par Aude Rabillon, parce que le projet Prazor, les formatrices, c'était deux artistes, Aude Rabillon et Marie Guérin, qui ont accompagné les chercheuses et les chercheurs, mais je crois qu'il y avait que des filles, donc les chercheuses, à cette acculturation technique et à ce que ça voulait dire sur le terrain. Donc en fait, on est parti se promener. Ici, on est à Baugé. Après avoir fait une première journée d'écoute, le classique pour se rompre l'oreille à différents choix dramaturgiques, à essayer de comprendre ce qui se passe dans les dispositifs, etc. Très rapidement, on emmène le groupe à Baugé et on est sur le terrain de recherche de cette personne que vous voyez là, qui s'appelle Jeanne Roule, qui a la chemise bleue. Et Jeanne nous emmène sur son terrain où elle va chercher dans son projet de recherche, elle est en quête des corps des soldats anglais qui sont morts pendant la bataille de Baugé. On a noté la date hier parce qu'on s'est dit Jeanne va nous trucider si on ne connaît pas la date. 1421, elle cherche les corps. Donc elle cherche les corps enfouis sous la terre et en fait, et donc elle mène son enquête sur aussi qu'est-ce que l'héritage de cette bataille dans ce village Baugé en Anjou, et donc elle va rencontrer les habitants. et pas n'importe quels habitants. Donc, elle nous emmène sur son terrain et Jeanne se retrouve dans cette situation un peu étrange où on est tous équipés avec nos petites unités, parce que l'idée, c'est de réussir à capter la voix, donc à bien diriger son micro, et surtout réussir à assumer le geste de tendre le micro. Donc d'entrer en relation comme ça avec des témoins, de voler leur voix, on peut le dire, hein, pour un exercice technique. Et Jeanne se retrouve, je trouve intéressante, l'image du dessus, là, tout là-haut. Donc ces deux témoins, c'est la dame au premier plan, comment elle s'appelle déjà cette dame ?
Madame Mouchet.
Et Roland, c'est bien Roland, c'est ça, tout là-haut. Donc Madame Mouchet, on est sur son terrain au Moulin Ribard, qui est le lieu de la bataille. Et qui nous raconte ce que la mémoire lui a légué du moulin qui tournait le sang des soldats à l'époque, parce que voilà, l'eau était déjà fortement présente, évidemment. Et Roland qui raconte que dans son enfance, parfois, quand il y avait des pluies diluviennes, ressurgissaient des restes humains, des squelettes, en fait, qui dévalaient la rue. Et elle va travailler avec cette mémoire-là, Jeanne, en fait. Elle va faire une enquête orale tout en faisant parler le souterrain et donc comment ça anime aussi la vie de ces gens, finalement. Mais Jeanne, elle est en difficulté très rapidement. Et on le voit. Regardez cette scène où Anne-Zoé ne se démonte pas. Elle continue à tendre le micro alors que Jeanne, qui devait enregistrer son témoin, qui était en exercice, hein, elle a le casque. Là, autour du cou, c'est pas très grave à la limite. Mais surtout, regardez où est son enregistreur. Bon, bah là, c'est raté. C'est-à-dire qu'à un moment, Jeanne n'arrive pas à assumer cette posture avec son témoin de tendre le micro. Et elle nous a fait un retour d'expérience qui, pour elle, était douloureux, où elle se sentait comme en situation de rapt, de vol, et qu'elle n'osait pas justement enregistrer pour tendre le micro. Donc en fait, le son a été sauvé par ses collègues, mais ça veut dire que ça pose la question de notre capacité, nous aussi engagés dans cette démarche, d'assumer ce rôle, d'y aller. Parce que, enfin, Marie Guérin ne cesse de nous le dire, c'est un engagement du corps. On y va, en fait, et on entre en relation. Et si tu n'engages pas ton corps dans le geste, ben, déjà, tu te dis que ce n'est pas possible d'aller dans ce terrain d'écriture sonore. Par contre, ce qui est assez joli sur la phase du dessous, c'est que Jeanne fait ce partage avec ses témoins, c'est-à-dire créer du lien où elle met le casque de Madame Mouchet sur les oreilles, à Madame Mouchet sur les oreilles, et elle lui fait écouter le son qu'on est tous en train d'enregistrer, de jouer, avec cet hydrophone. Le son que Anne-Zoé est en train d'écouter, que Madame Mouchet est en train d'écouter, que Jeanne est en train d'écouter et lui montre ce qui se passe, c'est le son du petit ruisseau. Et là, on a Céline qui est avec Aude, et on voit Anna-Clara à côté, qui plonge et qui joue avec un hydrophone dans le ruisseau. Et elle joue, et du coup, ça veut dire que les chercheuses, à ce moment-là, non seulement elles se mettent en situation d'aller chercher une voix, un peu classique pour le chercheur, même si ça demande de faire ce pas, de tendre le micro, mais aussi d'aller écouter des sons inouïs. Alors, encore plus inouïs quand c'est un hydrophone et qu'on joue avec la succion de l'eau, le clapotis sur la surface du micro, etc. Mais c'est de se dire qu'on peut aussi, en allant chercher des sons inouïs ou en allant chercher des ambiances, on voit Anne-Zoé et Christelle qui, là, enregistrent aussi le passage de l'eau, mais sans hydrophone. Mais, donc, elles vont faire exister cette eau qui a charrié le sang. Parce que ce n'est pas pour rien, en fait, qu'on enregistre l'eau, évidemment. C'est un rôle dramaturgique qui a charrié le sang de ces Anglais que Jeanne cherche à retrouver. Donc, il y a ces prises de son-là. Et après, il va y avoir un exercice de montage à partir de ces prises de son et donc de mettre en voix et en son une dramaturgie de ce terrain. Et là, je laisse la parole à Anne-Zoé.
Oui. Alors, est-ce que ça marche ? Oui. Donc, bonjour. Donc, vous voyez que moi, je fais partie des apprenants Prazor, des apprenantes. Et cette journée à Prazer, c'était notre premier exercice. Et là, je pense qu'on va faire écouter, c'est le début, une petite sélection du montage que j'ai fait. En fait, après cette journée-là, il nous restait 2 jours de formation sur la semaine. On a passé 2 jours à déjà faire une première mise en commun de tous les sons que chacune avait récoltés, avec apprentissage de la méthodologie de dérechage, comment on nomme, comment on classe, comment on organise pour s'y retrouver. Après, chacune a pu passer relativement peu de temps, hein, une journée et demie, pour travailler sur Reaper et se familiariser avec le logiciel. Et donc, je propose qu'on écoute. Peut-être, donc vous l'avez compris à la nature et à la présentation nourrie de Séverine, on avait 3 types de sons. Des prises paysages, des prises de bruit précis qui nous semblaient importants dans le cadre d'une narration, et puis ces 2 témoignages qui étaient quand même la raison de notre déplacement. On peut faire l'écoute ?
Déjà, je voulais vous demander si vous vouliez bien qu'on vous enregistre.
Oh oui, pourquoi faire bon.
En fait, donc, les traces aussi.
Oui, les traces. Écoutez, moi, j'en ai pas, hein, parce que c'est très ancien, évidemment. Bon. Et mes grands-parents n'ont jamais rien dit, n'ont jamais rien trouvé.
C'est une vieille chose. C'est une chose qui est connue de tout le monde, qui se dit de petit ou... Enfin, de grand au petit. Et bon, bah, voilà, c'est tout.
Mais vous aviez... On ne vous parlait pas de la bataille ou...
Non.
Non. Pas de souvenir. Non.
Et après, ce que vous en avez parlé ?
Ça s'est répandu, ça s'est su.
Oui, absolument. Il y avait juste là-haut la pierre commémorative qui était déplacée, qui était là-haut, près de la maison de mon grand-père. Mon grand-père la soignait, je vous dis, l'entretenait en commémoration, mais c'est tout. Hein,
bon. Vous voulez parler du pas de la mule ?
Oui, voilà, oui. Donc, c'est tout, je n'ai jamais en discuté.
Mais c'est une légende.
C'est une légende.
Voilà, donc c'est un très court extrait. L'objectif, là, vous l'avez compris, c'est 2 témoignages séparés qui ont été pris dans des conditions complètement différentes en plus, parce que Roland était prévenu, il avait réservé la salle de la mairie, enfin, c'était très, très officiel, on avait les chaises tous ensemble, alors que Madame Mouchet, on l'a presque surprise au pas de sa porte. Donc, moi, j'avais quand même envie, enfin, on s'est posé au retour de Beaugé la question de quelle intention, qu'est-ce qu'on veut faire ? On était tous rentrés dans les problématiques de Jeanne sur la mémoire, le travail de la mémoire et de la collecte d'une bataille oubliée, et comment j'avais envie de me mettre en scène ça. Et moi, j'ai choisi le jeu du ping-pong en allant sélectionner des petits bouts qui se répondaient, en redonnant du sens des échanges qui n'étaient pas du tout concertés. De ce point de vue-là, avec des questions techniques qui se posaient, comment est-ce qu'on on peut se débrouiller avec la différence de prise de son, Roland qui était très proche, Madame Mouchet qui était en situation. Donc voilà, là il y avait vraiment un travail de construction sonore. Et pour terminer sur cette phase d'exercice et avancer un petit peu dans la présentation du projet, moi je voulais quand même signifier que c'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, que j'ai pris, et par le passage de ce petit exercice, donc je souhaite que si les 8 personnes, les 8 jeunes chercheurs qui seront engagés dans la formation, aient aussi ce moment de révélation, je me suis rendu compte que, oui, en une journée, devant un ordinateur, j'ai réussi à construire le récit que je voulais construire. Et tout, on a construit des récits finalement très différents dans nos choix. Et ça... Ça a été une prise de conscience collective assez forte, je pense, sur notre capacité assez rapide à investir ce que tu vas présenter comme une grammaire, et que tout le monde comprend comme une grammaire, de manière assez intuitive. Et notre capacité technique à faire quelque chose avec ça.
À partir d'une matière commune, en effet, plusieurs possibilités narratives. Donc ça, c'était assez joli à voir. Mais ce qu'on a compris aussi au cours de cette résidence d'initiation à la prise de son, c'était... outre tout ce que j'ai pu énumérer tout à l'heure, la question dramaturgique de ces prises, c'était aussi comprendre qu'il nous fallait prendre des fonds d'air. Des fonds d'air parce que ces fonds d'air allaient nous permettre d'avoir de la souplesse au moment du montage pour faire respirer les paroles, pour faire des coupes de nettoyage. Le terme n'est pas très heureux, mais Yann Parentoen, un grand homme de la radio, avait une très belle expression pour ce moment-là. Hein. Il disait « on va l'aider un peu ». Je trouve ça joli parce qu'en fait, on fait aussi advenir. Vous parliez de la question de ce matin sur les voix, comment on modifie les voix. Bah oui, en fait, on fait un peu les chirurgiens et parfois, on modifie une élocution, on coupe des répétitions, on coupe des bégaiements qui sont dans le flux naturel de la peau. C'est joli ça. Dans le flux naturel de la voix, parce qu'en fait, quand on monte et qu'on écoute et qu'on réécoute, en fait, notre attention, elle se détache et on se dit qu'on risque aussi potentiellement de perdre l'attention de l'auditeur si on ne fait pas ce travail-là. Il faut juste une question éthique, c'est quel est le contexte, dans quel contexte on mène ce travail en fait, d'amélioration de l'élocution plutôt que de la voix d'ailleurs. Et puis, cette phase de formation nous a alertés sur la nécessité des prises d'ambiance et des bruits qui marquent finalement le virage vers notre sonographie de la recherche. Parce que on en a beaucoup parlé, dans la parole enregistrée, on a un imaginaire du corps qui se situe dans la tessiture de la voix. On est dans la voix, en plus d'être dans le sens des mots. Et le sens des mots, il est à minima doublé par cette simultanéité de la matérialité d'une voix et de ce qu'elle nous raconte dans sa matérialité. Avec les ambiances et avec les bruits, nous avons déployé davantage la sonosphère dans laquelle nous avons engagé notre pensée, mais aussi celle de nos auditeurs. Et les ambiances, les musiques, elles participent du dialogisme. Elles œuvrent à la circulation du sens et du ressenti dans l'écoute. Surtout, je crois, en tout cas c'est important, elles nous décentrent du logos, qui nous relie non seulement aux locuteurs, mais aussi au paysage sonore de ces locuteurs. Et donc, finalement, elles donnent à entendre, elles nous relient par l'exercice de mémoire au moment du montage, mais aussi parce qu'on donne à entendre à des auditeurs. Elles relient le chercheur à son milieu. Et donc, elle fait entendre nos terrains de recherche, mais elle nous fait entendre, nous, dans nos terrains de recherche. Donc, en fait, elle nous place, par le fait même qu'on ramène ces sons-là, dans l'endroit de la pratique de notre recherche. Parce que finalement, ces écritures alternatives de la recherche, qu'elles soient sonores ou autres, elles œuvrent aussi au travail du chercheur. On en a parlé ce matin, on n'est pas inexistant. Au contraire, on affirme par ces gestes déplacés notre rôle et notre volonté d'exister autrement, mais peut-être d'exister aussi dans la société par la fonction de la recherche dans la société. Et ça va bien plus loin que la question d'une diffusion de l'ordre de la médiation, de l'ordre de la valorisation. C'est de dire... Les chercheurs, vous ne savez pas ce qu'ils font, les chercheurs ? Bah, écoutez, regardez, quand ils vont sur les terrains, ils font ça. Ils ne ramènent pas juste des articles avec 30 000 signes ou je ne sais pas quoi. Ou un bouquin. Bref. Et puis, on a appris aussi la nécessité des bruits. Ça ne paraît pas évident. Mais les bruits sont des éléments de grammaire dans la dramaturgie qu'on met en œuvre sur le banc de montage. Et alors, d'un seul coup, cette nouvelle écriture, c'est de se dire qu'à la place d'un point, c'est une porte qui se ferme. À la place de point de suspension, c'est une musique, c'est du vent, c'est le mouvement de l'eau. À la place d'une virgule, le passage d'une voiture. À la place d'une majuscule, le démarrage d'un moteur, etc., etc. En fait, on apprend à écrire autrement, avec cette grammaire sonore. Ça, c'est le moment où on nous prépare à aller sur les terrains. C'est le moment de cette formation qui passe évidemment par l'apprentissage technique, mais une sensibilisation au monde sonore et à ce qu'il peut receler de possibilités de récit, par-delà même nos questions scientifiques. Un an se passe et on va avancer dans le diaporama. Un an se passe au cours desquels nous avons... Ah, j'avais laissé ça. C'est le programme. Là, j'enlève ça. Ouais, on enlève, on va passer sur la photographie. Et voilà. Un an se passe au cours duquel les chercheurs sont partis sur le terrain avec leur micro, avec plus ou moins de réussite, hein, parce que tout le monde n'a pas été jusqu'au bout du travail dans Prazor. Ça a été difficile pour certains de justement d'investir la question du micro sur le terrain. Et donc, il n'y a pas tous les projets n'ont pas été menés jusqu'au bout. Il y a la question de la disponibilité du chercheur et de l'aspect chronophage de la tâche. Là, je pense que pour certains, il y a élevé le rêve d'eux. Et puis, en fait, la réalité fait que c'est chronophage. Donc, ça limite aussi certaines envies. Et puis, on revient un an après, au cours de cette deuxième semaine donc, de résidence de réalisation. Et là, on est encadré par... donc là, il y a toute l'équipe. Hein, les Canadiens sont venus. On a même Marie qui est là, qui était avec Ornella. Alors, elles n'avaient pas encore fait leur tournage, mais elles sont venues nous voir parce qu'elles nous ont rejoints aussi dans la pensée et l'énergie de Prazor. Donc, elles sont quand même venues nous voir pendant 2 jours, je crois. On est là, ben là c'est le moment où il faut œuvrer. Donc ça passe par des temps collectifs avec Marie et Aude sur reprendre en main Reaper et puis apprendre aussi des bidouilles de modification de nos sons parce qu'évidemment il y avait du travail, des effets qu'on peut avoir dans le montage sur un effet pan ou une réverb ou enfin bon bref, corriger nos niveaux aussi dans la courbe de volume sur les pistes de Reaper qui peuvent améliorer nos bêtises. Très vite, chacun part dans son box de montage, donc en binôme ou en solo en fonction des projets. Et très vite, les mains dans le cambouis. Il faut réussir à terminer, si possible, le projet documentaire à la fin de la semaine. Donc, je disais tout à l'heure qu'à France Culture, on avait la pression. Mais là, j'avoue qu'on avait aussi la pression. Il fallait obtenir un résultat et faire écouter quelque chose à la fin de la semaine. Et en fait, les documentaires les plus courts, les 15-20 minutes, ont été réalisés en très peu de temps et ont été donnés à l'écoute le vendredi après-midi. On va faire écouter un début de documentaire. Donc on a ici le projet mené par Pauline Boivineau, qui est chercheuse en danse, donc en art du spectacle, et qui a mené ce documentaire parce qu'elle a été invitée à s'intéresser à un travail d'étudiant archiviste engagé dans les archives du centre chorégraphique basé à Angers, et ce centre chorégraphique voulant valoriser les archives pour les ouvrir aux chercheurs. Donc c'est tout un travail de valorisation des archives de la danse mené par ces étudiants et donc de cette formation. Et Pauline va avec son enregistreur dans la salle de classe. Le micro était dans la classe. Et dans les archives, au cours des visites, j'ai compris ensuite, par le questionnaire d'évaluation de l'expérience que j'ai donnée à toutes les équipes, que Pauline avait posé le micro dans la classe et qu'elle n'avait pas tendu le micro précisément. Voilà. Et donc, on va écouter son début de documentaire. Voilà, on lance.
Je vous propose juste de regarder, de vous installer. Vous pouvez soit aller dans ce petit studio, soit dans ce petit studio-là.
Ce séjour, nous avons ouvert 203 boîtes.
Le désir d'archives du CNDC.
Enfin, c'est surtout qu'à un moment donné, l'archive, c'est... Enfin, voilà, l'archive, c'est vrai que l'archive, c'est pas les archives, qu'il peut y avoir une archive qui n'a pas un seul document d'archive à l'intérieur, et pour autant, ça constitue quand même une archive au sens d'éridien du terme. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on ne sait plus trop. Enfin, pour nous, c'est compliqué, quoi, parce que le fait que le vocabulaire soit aussi peu rigoureux et soit fluctuant, c'est compliqué.
Voilà. Les sons, les musiques que vous entendez, c'est que Pauline, au moment du montage, se dit « il me manque de la matière ». Et donc, elle n'a que ces situations d'enseignement et de visite des lieux, et elle, elle trouve, en fait, et les artistes vont la pousser dans cette direction aussi. On parlait ce matin de la question de la création. Pour faire exister ses paroles, elle a besoin d'aller chercher autre chose. Donc elle va aller prendre des enregistrements de musique, de spectacles qui sont sur Numéridance. Donc elle va faire résonner les archives aussi de la danse. Et ces musiques, pour un chercheur en danse, elles sont immédiatement connectées à des grands moments de l'histoire de la danse que des oreilles non préparées ne reconnaissent pas. Mais investissent à un autre endroit qui est de l'ordre de la sensation de l'écoute aussi, de l'esthésie. Peut-être on passe à la suite. Donc ça, c'était... Alors oui, je ne l'ai pas dit, mais je l'ai écrit. Rien n'est mixé. Donc voilà, il va y avoir ce travail aussi de soutien aux réalisations. Ici, on est sur le tournage de Ana Clara Santos qui se passe au Portugal, donc l'Université d'Algarve, Ana Clara. Et elle documente un processus de création qui est la mise en scène du Petit Prince, mais en portugais, donc avec les questions du passage de la langue anglaise au portugais, avec les problèmes évidemment dans le chant, de ce que ça génère sur la temporalité de la langue et de la possibilité du chant. Je ne suis pas très musicologue, je suis un peu pas douée là pour parler comme ça. Mais donc avec Ana Clara, moi j'étais en mission Erasmus à ce moment-là. Ce que vous voyez là, c'est Ana Clara avec son zoom, elle avait oublié sa bonnette. Et elle enregistre les voix du cœur des enfants, elle les passe les uns après les autres. Et moi je suis par-dessus avec l'autre micro. On double la prise, mais il n'empêche qu'au montage, c'est la prise d'Ana Clara hein, qui va être montée. Et vous avez à la fin le spectacle. On a choisi cette photographie parce que on voit bien les deux côtés et surtout l'aspect sonore par la présence de l'orchestre. On va écouter donc le début d'Ana Clara.
Nós estivemos a acompanhar um bocadinho deste processo. É tal como portanto, vos dizia há pouco, a primeira vez que esta ópera é levada à palco em Portugal.
Donc, à ce moment-là, os artistas Ana Clara apresente à l'université le suivi du processus de création et accueille le metteur en scène et le coordinateur musical.
Porque tenho cá desde há dois dias comigo a professora Séverine Leroy.
Tu joues sur ta séquence ici et tu vois les niveaux là. Donc c'est les mêmes repères. Sur la fin, ça l'a fait rire de garder ce moment où je la faisais jouer avec le son. Bon. Pourquoi on entend autant de moyens de transport au départ, c'est qu'à Faro, en fait, vous avez un avion qui vous passe au-dessus de la tête assez régulièrement. Et donc le bruit de l'avion fait partie du paysage sonore de la recherche, que la salle de répétition elle est juste à côté d'une ligne de chemin de fer, qu'on y va en voiture, on se déplace, donc elle fait aussi exister ces moments-là. Et puis, En fait, il y a le deuxième niveau qui est, c'est le petit prince, c'est l'aviateur, c'est l'avion. Enfin voilà, on joue aussi avec ces références-là au final. On continue peut-être avec le prochain, c'est le... Ah, c'est moi le prochain, d'accord. Alors non, on continue pas avec moi tout de suite. Je vais terminer parce que... Oui, il y a un truc qui est... Ouais. Ça, c'est l'équipe des Canadiens, mais on passe, parce qu'on n'a pas trop de temps. Et là, je vais laisser la parole à Anne-Zoé.
Voilà, donc moi, comme vous l'avez compris, je fais partie de ces documentaires martyrs et je vais témoigner peut-être un petit peu plus longuement sur cette mue qui s'est effectuée pour moi dans ma recherche. Donc d'où je viens, comment Prazer m'a déplacée. Avant de rencontrer Séverine Leroy, qui m'a présenté son programme un jour à la cantine de Lucco, je concevais ma recherche en musicologie médiévale comme centrée sur l'étude des sources manuscrites musicales, des textes, des notations musicales illisibles, des pattes de mouche, l'analyse des mélodies qu'on pouvait en déduire, l'étude de leur contexte historique, etc. Des problématiques passionnantes que je n'abandonne pas, mais qui, dans ma pratique, pour le moins, étaient silencieuses. Ces sources ne deviennent sonores que lorsqu'on se risque à la restitution de ces traces par l'interprétation. Et ce n'est plus le travail du musicologue, c'est celui des artistes et des musiciens. Les musicologues, les musiciens se rencontrent, ils travaillent ensemble parfois. C'est cette relation-là, cette relation présente-là, que j'ai eu envie d'interroger dans le cadre du projet Prazer, à l'endroit d'un champ disciplinaire attenant à la musicologie, qu'on appelle les études de la performance, la musicologie de la performance, domaine scientifique bien identifié chez les anglo-saxons. J'ai rapidement perçu ce que la méthode Prazer du chercheur créateur de ces traces et narrateur de sa recherche par le son pouvait apporter d'innovant pour traiter cette problématique. En effet, ces recherches, les recherches existantes sur l'interprétation des musiques médiévales, elles sont généralement menées à partir d'entretiens avec des artistes ou par des artistes eux-mêmes qui racontent leur processus. Elles mettent en valeur des produits discographiques finis. Elles se confondent parfois un petit peu avec de l'autopromotion de la part des artistes. Et elle participe aussi d'un champ universitaire bien identifié de recherche-création, de partenariat, conservatoire, université. Mais ce n'est pas ce que j'avais envie de faire. Mon objectif n'était pas d'étudier le résultat de la production artistique, mais le processus qui y mène, le travail, le labeur et la part que prend la musicologie, le savoir historique dans le travail de ces musiciens, quels obstacles ils rencontrent et comment ce travail se manifeste, comment la connaissance, la mienne, en tant que musicologue, est présente dans le travail des musiciens. Donc vous comprenez bien à quel point la captation, la situation de captation était capitale pour mener cette enquête. Cette recherche s'est effectuée en binôme avec Christelle Chailloux, elle aussi musicologue médiéviste à l'Université de Poitiers. Et nous avons effectué des captations auprès d'un ensemble de 4 chanteurs, des captations de répétition, donc l'ensemble La Quintina, des captations donc, de temps d'échange et de temps de musique, beaucoup de ratés musicaux, beaucoup de moments inachevés, jusqu'au concert. On a quand même capté le concert. Voilà, donc 3 répétitions pour la préparation d'un concert de motet du XIIIe au XVe siècle. Alors vous allez en entendre des petits bouts, c'est une musique extrêmement compliquée d'un point de vue de sa réalisation, notamment rythmique. Donc de la polyphonie à 4 voix expertes. Notre objectif par ces captations était d'avoir un accès, alors j'ose plus dire sans filtre, mais au moins in situ, en situation du travail de ces musiciens, d'accéder à la réalité de leurs paroles. Donc je vous fais peut-être écouter le début, les quelques premières minutes du documentaire et je reviendrai après sur un tout petit extrait. Ah, bon, bah, il n'y aura pas la deuxième diapo. Okay. Oh.
dans l'antichambre du concert.
Un documentaire réalisé par
Anne-Zoé Rion-Marne
et Christelle Chaillot.
On a des disques.
Sinon, rien à voir avec ce
programme. Ça n'a rien à voir avec ce programme, mais c'est de la belle musique.
Le 18 janvier 2024, l'ensemble La Quintina, dirigé par Jérémy Coulot,
interprète un concert de musique ancienne
à l'amphithéâtre Richelieu de la Sorbonne.
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 Ah, j'ai fait mon warm-up dans le métro.
C'est vrai ?
Ouais. Il y avait la ligne 8 qui était en galère.
Ouais, c'est pratique quand il y a beaucoup de bruit autour, on peut faire mal.
J'ai dans l'escalier, mais c'était un peu. Mais...
C'était lequel ton café, Jérémy ?
Comment ?
C'était lequel ton café ?
Je sais pas.
Est-ce que vous voulez un petit peu de brioche pour commencer ?
Volontiers. Allez.
Elle est là.
Le petit déjeuner commence à être loin.
C'est ouais, pas bah. Raisonnable, mais allez.
Exactement.
Il manque un mini bon. Oh, elle est bonne.
Je vais essayer d'allumer un peu. Ici. Voilà.
Là, je...
Alors Fauvel, c'est celui-là, ouais.
Ouais, nous la pétisse, nous la pétisse.
Exactement. Est-ce que ça vous dit de d'essayer de lire ça?
Ah ouais.
Des arrivées, il y a des moments où on se retrouve tous avec des blanches. Qu'est-ce qu'on fait, enfin avec des valeurs longues. Est-ce que c'est des moments de pause ou est-ce que c'est des moments de jointure en fait.
Voilà, donc c'est un travail qu'on a synthétisé en 19 minutes avec comme ça des temps de travail, de répétition, de discussion. Et pour terminer, et avant de redonner la parole à Séverine, je voulais partager avec vous quelques petites réflexions de débutante sur ce que j'identifie comme les trois grands moments de la recherche, les trois grands moments de la conduite de la réalisation d'un documentaire. Donc il y a le temps des captations. Et là, c'est l'aventure. On ne sait pas ce qu'on va trouver. En tout cas, dans mon choix de terrain, le terrain a été préparé, bien sûr. Mais pas trop, parce qu'il ne fallait pas non plus dévoiler toutes nos questions de recherche aux musiciens pour qu'ils soient, pour ne pas influencer leur discussion, parce que s'ils s'étaient mis à bouquiner toute la musicologie juste avant, ça ne nous aurait pas intéressés, justement. Et on ne savait pas du tout ce qu'on allait trouver. On a eu le lieu de répétition la veille, et donc vous voyez, on est dans le salon de Jérémy, Jérémy Coulot, le directeur de l'ensemble. C'est au deuxième étage de la place d'Aligre à Paris. Il y a le marché qui s'installe, qui se désinstalle, des camions poubelles qui passent, des bips de marche arrière pendant toute la journée. Donc il y a un décor sonore avec lequel il faut faire, et il faut composer. Et qui influence bien sûr notre capacité à prendre des bons sons. Et on a aussi eu des difficultés dans la prise de son pour une première expérience. Alors c'est la première fois qu'on perchait aussi, et du coup des difficultés sur la différence de volume sonore. Ma foi, ces quatre chanteurs, quand ils se mettent à chanter, ça dépote quoi. Et donc le niveau qui monte à toute vitesse sur l'enregistreur. Donc on a pas mal de ratés, on a fait beaucoup d'expérimentations de ce point de vue-là. Donc il y avait vraiment cette part d'aventure sur le lieu et le son qu'on allait capter. Il y a aussi, dans cette situation, la part d'aventure humaine. On ne sait pas quelle va être la relation entre eux. On les connaissait très peu, hein, ces musiciens. Et la relation avec nous et cette question de l'éthique qu'on a déjà abordée ce matin et qui est très puissante. Quand est-ce qu'on peut laisser l'enregistreur? Quand est-ce qu'on ne peut plus le laisser? Parce que dans le petit milieu de la musique médiévale, on arrive très vite au commérage, aux échanges de nouvelles des uns et des autres. Et on n'a pas non plus envie de rentrer dans une forme d'indiscrétion. Et donc il y a une sorte d'honnêteté à aborder avec eux pour créer un espace de parole sécurisant pour eux. Qui nous donne aussi la possibilité de capter ce qu'on a envie de capter. Donc ce temps des enregistrements était très fort. Ensuite, très chronophage, et on l'avait vraiment sous-estimé, le temps du dérechage. Et pourtant, c'est là que la recherche se fait, c'est là qu'on analyse nos sources, même si on a des heures et des heures d'enregistrement et cinq fois, six fois le même motet, il faut tout écouter. Choisir le moment où c'est sur cette plage-là qu'on entend le mieux les problèmes vocaux, le problème rythmique qui se déroule. Donc il faut vraiment tout écouter. Et c'est là que nos véritables questions se posent, trouvent des réponses, s'ouvrent vers d'autres questions. C'est un temps incompressible. Et le fait d'être en binôme a été pour moi extrêmement, extrêmement utile et stimulant. Et enfin, le montage. Parce qu'on peut avoir quelques idées au montage, donc je voulais vous faire entendre un autre moment, mais c'est pas grave, je vais passer dessus. On a quand même ajouté quelques petits procédés d'écriture. Là, vous avez entendu sur le début pour signifier le retour dans le temps, puisqu'on a commencé par le concert. Il nous semblait important de faire entendre le produit fini avant de faire entendre les plantages. Donc le moment du concert, il y a un retour dans la chronologie sur l'arrivée des musiciens à la première répétition. Donc avec ce petit jeu d'accélération des voix. On a fait aussi des effets de superposition sur des moments où il y avait des termes techniques incompréhensibles pour qui n'est pas musicologue et spécialiste de la musique du XVe siècle. Mais notre but, ce n'était pas de la vulgarisation, c'était de faire comprendre, faire entendre la difficulté. Donc on a joué avec des effets de superposition, de mélange, de confusion, parce que la confusion fait partie de leur processus de travail et ils essayent et ils achoppent jusqu'à ce que la solution musicale se trouve. Donc voilà, ce temps de montage, c'est le temps de la narration et c'est les mains dans le cambouis qu'on trouve des solutions dans les procédés narratifs qui parviennent pour nous à exprimer des choses qu'on a envie de dire. C'est pour ça que, pour moi, ce qui a beaucoup de valeur dans Prazor, c'est la maîtrise qu'on peut avoir, avec peut-être toutes les maladresses d'un point de vue professionnel que ces procédés peuvent rencontrer, la maîtrise que nous, en tant que chercheurs, on peut avoir sur ces moments-là. Voilà. C'est aussi poser la question, pour terminer et repasser la parole à Séverine, la question de la place de notre parole. Alors là, vous avez entendu le début, où on fait une sorte de générique et où on contextualise un peu, mais après on s'efface complètement. C'est un choix qu'on a fait. Je pensais au début qu'on ferait quelque chose de beaucoup plus descriptif de notre posture. Et bon, les choses se sont faites comme ça. La matière et les situations nous ont semblé assez parlantes. Et peut-être aussi l'inexpérience et une forme de timidité qui fait qu'on n'a pas non plus envie de trop se mettre en scène. Hein. C'est peut-être quelque chose qui va évoluer dans ma pratique parce que j'ai bien l'intention de continuer et de travailler sur une forme de sérialité, de voir beaucoup d'ensembles, des ensembles qui travaillent différemment et d'aller comme ça créer des instantanés de comment les artistes les chanteurs en musique médiévale, chanteurs et instrumentistes travaillent ici, et notamment travailler avec le CNSM de Lyon, c'est prévu, dans les classes de formation aussi. Voilà. Donc cette question de la parole du chercheur, vous allez le voir, elle est très présente dans le travail qu'a produit Séverine, justement dans cette résidence.
C'est la slide Alors, on va juste poser le cadre un petit peu particulier de ce documentaire, parce que je vous ai dit que j'étais chercheuse en art de la scène, et là, je vais vous donner à écouter le début d'un documentaire réalisé au Rwanda, consacré aux lieux de mémoire et aux politiques de mémorialisation du génocide. Je suis totalement éloignée de ma discipline, mais pourquoi je suis là ? Parce que Rémi Corman, mon collègue à l'UCO, est spécialiste de ces politiques de mémoire et emmène chaque année les Master 2 en conflictualité et médiation pendant 10 jours dans le pays et visite différents lieux importants du génocide. Et ma fonction, c'était aussi d'accompagner des étudiants à une écriture sonore de leur terrain, et donc et moi aussi d'éprouver ce que j'allais produire comme récit sonore de cette expérience. Donc je suis pas du tout dans les arts de la scène, et ça a été très très compliqué de monter ce documentaire, justement dans les autres productions en dehors des lancements où je pose un cadre et je laisse dérouler. Là, je savais pas comment me dépatouiller du truc, parce que trop de choses se mélangeaient pour moi dans ce documentaire, et c'est ce que ça donne à entendre en fait sur le début, où je donne tous les éléments de complexité. Et au bout d'un moment, je vais disparaître et laisser les témoins, une fois dans le pays, les témoins prendre la parole. Et là, je disparais quasiment du... Enfin, l'instance médiatique disparaît du documentaire. Mais c'est vrai qu'au départ, elle est très présente. Là, vraiment... Enfin, merci, soyez gentils, parce que là, il y a vraiment besoin, vraiment, de mixage.
Qu'est-ce que tu cherches ? Tu cherches quoi ? Qu'est-ce que tu cherches ?
Je ne sais pas encore. Il y a encore trop de pistes en devenir. Le retour de cet étrange vertige comme à chaque commencement. Ouvrir une voie et s'y tenir. Comme en escalade.
On est à l'intérieur de maison, on est couché par terre. Maintenant il fait clair. Mais on ne sort pas encore, on ne peut pas sortir. J'entends des coups. Est-ce que c'est tout près? Est-ce que c'est un peu loin? En tout cas, ce sont des coups qui sont très durs.
Le 7 avril 1994, Agathe Uwilingiyi Mana, qui s'exprime, c'est la première ministre du Rwanda. Bonjour Rémi Corman.
On écrira un jour sur quoi on a préparé cette exposition, c'est la recherche des photos. Donc par exemple, cette photographie-là, elle est assez connue de la famille Abiyalimana.
Des milliers de photos ont été prises au Rwanda en 1994 par des étrangers, journalistes surtout, humanitaires ou religieux, plus rarement. Combien sont aujourd'hui accessibles au Rwanda ou sur Internet, pour les survivants et survivantes qui souhaitent les retrouver? Elles dorment dans les archives des médias occidentaux, du Tribunal pénal international ou dans les cartons chez les photographes qui les ont prises sans s'imaginer qu'un jour, peut-être, une des personnes qui y figurent pourrait venir frapper à leur porte en disant « Vous avez quelque chose qui m'appartient et que je suis venu récupérer. » Est-ce que ces photos nous appartiennent ? Se demande Beata Umubieyi Meres dans son dernier ouvrage « Le convoi ». D'autres avant moi ont préparé des chemins. Je les lis. Je surligne. Je recopie. J'écoute aussi. J'écoute beaucoup.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Perpétrée en 1994, au son de la justice internationale, Marie Firins et Ornella Revetta nous racontent l'histoire de cette justice qui a condamné des individus pour crimes de génocide.
Je regarde des films, je revisite ma bibliothèque et retourne vers le mémoire que j'avais rédigé pour mon Master 2, Dramaturgie contemporaine des crimes contre l'humanité, l'écriture inquiétée.
Brussels Airlines bound to Entebbe via Kigali. The flight time for scene after airborne is around 8 hours and 15 minutes.
Bonjour Séverine. Je prends sinon le temps de t'écrire un email en prévision du séjour avec quelques références pour que tu comprennes aussi dans quel contexte le voyage s'inscrit aussi au niveau historiographique. Le principe même du séjour d'études ne va pas de soi. Il y a tout un tas de recherches sur les séjours à Auschwitz pour les étudiants, le sens que ça a, les logiques pédagogiques, ce que cela implique en préparation, en restitution, etc.
Ainsi, la rencontre avec Rémi Korman, mon collègue désormais, m'amène à renouer avec mon passé de jeune chercheuse. Décembre 2023. Je pars. J'emporte mon enregistreur, Zoom F6, ma perche et mes micros, cardio et hypercardio.
T'as pas pris de micro stéréo ?
Bah non, pourquoi ?
Bah pour les ambiances.
Je suis encore très tâtonnante avec la technique. Mais je sais que ma recherche passe par là, cette nécessité de l'apprentissage. Le plus important ici, je vais faire l'expérience de mon corps sur le terrain. J'ai beaucoup enregistré pendant cette courte semaine du 3 au 8 décembre 2023. Une semaine de prise de contact avec le pays, une semaine de rencontres aussi. Avec Thierry Sebaganois, notre guide, rescapé du génocide originaire de Boutaré. Avec Jeanne Allaire Caillé-Guerroy, rescapé, originaire de Nyanza. Avec Thomas Bazatsinda, historien, directeur du musée national entre 1994 et 1996 à Boutaré.
Voilà le début. Le décor est planté, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe avant de partir ? Quelles questions on se pose ? Et comment je décide d'affirmer, parce que c'est un documentaire réalisé dans le cadre de Projet Prazor, je décide d'affirmer cette question, en effet, de la technique et de toute la préparation que je mets en œuvre avant de partir. Donc, en fait, c'est presque méta sur moi, chercheuse, je pars avec des micros sur ce terrain-là. Et voilà pourquoi je retourne sur ce terrain-là, parce que c'est aussi mon passé éloigné et une recherche que j'aurais pu mener. Pourquoi je décide de citer le début du documentaire de Marie et Ornella, parce qu'elles font partie de cette aventure de recherche, que le documentaire est diffusé la veille de la journée d'études, où Florence était également, et ça fait partie de cette aventure. C'est-à-dire, le documentaire, c'est pas seulement je suis allée au Rwanda et j'ai tourné sur les lieux de mémoire avec les témoignages de rescapés, parce que Thomas étant Hutu est quand même un rescapé. Donc c'est pas que ça, c'est d'où ça part, comment ça se met en place en fait, comment je mets en place le système dans lequel je vais aller, que je vais arpenter finalement. Et donc, pour revenir à mes notes et en terminer, cette phase de réalisation, elle a nécessité pour nous d'apprendre un geste, de le comprendre et d'accepter de passer beaucoup de temps sur le métier, hein, donc sur le banc de montage, et de comprendre aussi qu'on n'allait plus taper des mots pour faire des phrases, pour développer une idée, une pensée, une analyse, que notre outil, c'était plus le traitement de texte, mais qu'au contraire, on allait sélectionner des morceaux de son, si peu de morceaux par rapport à tout ce qu'on avait généré d'enregistrement, qu'on allait les nettoyer, qu'on allait les coller entre eux pour construire une grammaire, et une grammaire nouvelle pour nous, une dialogique du son et une dialogique sonore. Ça a nécessité en effet un important effort, et ça nécessite encore bien entendu d'acculturation technique. Ça a nécessité une capacité à considérer le son au-delà de la parole, et c'est pas forcément évident dans notre culture logocentrée. Je le redis, c'est une obsession. C'est pas évident d'écrire avec des personnages, des paysages sonores sans les réduire à l'habillage de la parole, et en décidant que ces paysages sonores, ils ne relèvent pas seulement de l'ambiance ou du fond d'air, hein, qu'ils sont signifiants. Voilà, donc on a été alimenté évidemment par les recherches de Schaeffer et puis toute la pensée de l'écologie sonore, de la sonographie que Roberto Barbanti travaille et je trouve exprime bien dans son ouvrage Écosophie sonore. Je dirais que, en fait, Prazor nous a permis de faire nos premiers pas, parce que réellement, c'était mes premiers pas, la première fois que j'étais amenée à réaliser jusqu'au bout et toute seule, dans la pratique de l'écriture sonore de notre recherche, et donc nous a engagés en acte dans une pensée par l'écoute. Et ça, il faut le vivre pour mesurer ce que ça représente. C'est une lente transformation qui est à l'œuvre chez mes collègues, et notamment Anne-Zoé ici présente. C'est pas pour rien qu'Anne-Zoé est là pour parler de projet Prazor. C'est une vraie transformation dans sa pratique de recherche. Je pense que vous l'avez compris. Et si au sein du groupe Prazor, bien sûr, il y en a qui ont décroché, qui ont décidé que c'était pas leur endroit, que c'était trop chronophage, trop compliqué techniquement, il y en a néanmoins d'autres, petit à petit, qui se disent que l'écriture sonore de leur recherche, ben, c'est un paysage à arpenter. J'aime bien ce terme d'arpentage. On arpente quelque chose et progressivement, c'est pas progressivement, c'est, et là Marie sera tout à fait d'accord, hein, je pense Olivier aussi, regarde ce qui a pu être dit ce matin. Ce n'est pas de la valorisation de la recherche, ce n'est pas de la médiation scientifique, c'est une pratique de la recherche, c'est une nouvelle façon de faire de la recherche, de penser la recherche, de vivre notre recherche. Moi, je ne mets pas des mois et des mois à construire un documentaire pour que ce soit une valorisation de ma recherche. Et tant mieux si ça peut être diffusé au-delà des sphères académiques, tant mieux si ça peut gagner des oreilles qui ne sont pas des oreilles de chercheurs. Néanmoins, ça reste des productions émanant de chercheurs. À partir de là, désormais, nous pensons le sonore de notre sujet, et je pense que tous les sujets ne s'y prêtent pas. Il en a été question ce matin, la question était posée. Je n'ai pas le sentiment que tous les sujets puissent s'y prêter, mais je peux me tromper. Il est certain qu'on doit mettre en œuvre un nouveau rapport à nos terrains, et notamment à nos témoins, par cet appareillage technique avec lequel on arrive, qui va transformer nos relations, qui va transformer les modalités de la parole et du recueil de la parole. Ça n'est pas la même chose que d'être harnaché et de tendre le micro que de poser le zoom sur la table qui se fait oublier. Donc il faut assumer ce geste et bien sûr accepter, pour entrer dans ce terrain-là, de prendre cet immense temps d'écouter, de classer, de sélectionner des sons, parce que qu'est-ce qui se passe à la différence d'une lecture transversale à laquelle nous sommes rompus sur une feuille et ça va très vite, là il faut réécouter les sons dans leur durée. Et donc il faut savoir que si on a enregistré quasiment non-stop pendant une semaine, eh ben, il va falloir réécouter tout ça pour classer et réécouter, et réécouter, et réécouter, et réécouter. Et au final, qu'est-ce que ça veut dire ? On a plongé. On a plongé dans le montage. On a plongé dans le montage son, et donc dans une nouvelle langue, parce que finalement, on apprend à parler une autre langue. Merci.
Cet épisode est l'un des 4 podcasts produits lors de la journée d'études de lancement du programme Essor. Vous pouvez retrouver les autres épisodes sur le site de Cas d'École dans les hors-séries. Suite à cette journée d'études, les 8 doctorants, doctorantes, chercheuses et chercheurs participant au programme Essor ont bénéficié, en février, d'une première résidence de 3 jours. Des temps théoriques et pratiques, ainsi que des temps d'échange sur leurs projets individuels, ont permis aux candidats de repartir avec un bagage solide quant à la prise de son et des objectifs d'enregistrement et de rédaction clairs à atteindre d'ici à la seconde résidence. Celle-ci se tiendra du 24 au 27 juin 2025 et aura pour thématique l'écriture et la réalisation des productions sonores. Merci à Sébastien Boudin pour la réalisation technique de l'épisode. À bientôt !